Radio Okapi.
Okapi.
Okapi Service.
Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Aujourd'hui, dans cette seconde partie, nous allons parler de la digitalisation de l'administration publique. La digitalisation de l'administration publique en RDC. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer le rythme? Professeur Kodjo Ndoukouma, expert en droit numérique, est notre invité. Bonjour professeur.
Oui, bonjour monsieur.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, des questions et préoccupations. Le standard est ouvert, 099 706 9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Toute l'équipe est en place. Jean-Claude Thiel à la mise en onde, Tati Mafoukou sur la coordination et la réalisation. Jody Daniel Kachama au micro. Bienvenue à tous. Bien, le digital n'est pas encore à l'ordre du jour dans la plupart des services de l'administration publique. La plupart des bureaux de l'État sont dépourvus des ordinateurs. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'imprimante, pas des connexions Internet, etc. Et tout s'est fait à la main. On écrit sur les papiers ou sur les papiers duplicateurs, les cahiers registres et autres. Et la plupart des archives sont déjà rongées par les bestioles ou détruites par d'autres éléments tels que l'humidité, etc. Et pour retrouver un document, par exemple, vous allez à la commune ou à le bureau du quartier ou dans certains ministères, c'est pas toujours chose facile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer la digitalisation de l'administration publique? Nous avons en ligne le professeur Kodjo Ndoukouma, expert en droit numérique. Professeur, quel état des lieux, la première question est de savoir quel état des lieux vous faites de la digitalisation dans l'administration publique congolaise?
Bon, je vous salue. Nous avons un cadre stratégique qui est le plan national du numérique, qui définit d'abord la digitalisation comme l'opération de numérisation consistant à transformer aussi bien les actes que les procédures administratives qui établissent d'abord les rapports entre l'administration elle-même et les rapports entre l'administration et les citoyens. Maintenant, il y a des chiffres que j'ai vus lors de l'arrivée du président Macron exposés par le coordonnateur général de l'ADN, qui montrait que 70% des postes de travail de l'administration publique, au moins, n'avaient pas d'ordinateur. Et puis, il y a quelque chose qu'on appelle l'électronisme, qui signifie que les gens ne sont pas computer literate. Ça signifie également que les gens sont lettrés, mais les gens n'ont pas l'aptitude à utiliser les ordinateurs. Donc, ce taux d'alphabétisme numérique est très important au Congo. Seulement, nous avons quelques bonnes initiatives d'administration numérique. C'est le journal officiel de la République démocratique du Congo qui met en ligne toutes les lois et tous les actes réglementaires du pays. Nous avons également la chaîne de la dépense qui va du ministère du budget, du ministère des finances jusqu'à la Banque centrale du Congo. C'est très bien retracé. Et puis, vous avez maintenant l'effort qui a été fait avec la plateforme Sidonia pour réunir toutes les régies financières des GDA, des GERA, des le reste. Et puis, vous avez également au niveau des administrations publiques municipales, les efforts qui sont fournis, notamment par la coopération belge, pour que tous les fichiers d'état civil puissent être numérisés, informatisés. Mais il faut le dire que c'est pour les besoins finalement de l'administration publique belge ou française, parce qu'il y a beaucoup trop de déclarations de regroupement familial et autres qui ne sont pas retraçables si c'est sur du papier. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'état civil congolais a reçu beaucoup d'appui de la part des partenaires étrangers pour numériser et retracer tout ce qui est fichier de l'état civil. Bon, un autre état de lieu quand même important, c'est que la plupart des administrations maintenant disposent des sites internet. Ça veut dire d'une vitrine, d'abord à la base, que vous soyez la présidence de la République, la CENI, la primature, que ce soit également les établissements publics, ils disposent de sites internet. C'est déjà bien. Mais malheureusement, ces sites internet ne sont pas interactifs, dans le sens de dire que s'il y a un service à délivrer par une administration, vous ne savez pas interagir avec l'administration à partir de votre maison. À la différence, vous avez les Congolais qui jouent beaucoup à Diviloterie. En fait, ils sont en contact avec l'administration des États-Unis, ou encore ceux qui demandent les visas auprès de l'ambassade de Chine et surtout de la maison Schengen. Tout est digitalisé. Donc, c'est un panorama. Mais au niveau interne, nous avons également, à ce que vous demandez l'état des lieux, un problème d'électrification. Oui, on parle de la digitalisation, mais la digitalisation n'existe pas sans l'électrification. Alors, le taux d'électrification est à moins de 20%, si je suis gentil, sur l'ensemble du pays. Et il est peut-être même plus facile d'utiliser du papier à Malembankoulou, à Ngandajika ou dans les autres contrées où il n'y a pas d'électricité, que de disposer d'un ordinateur qui ne peut pas fonctionner à l'électricité. Si je peux finir rapidement, un dernier élément, c'est le ministère de la Santé qui avait réussi avec des VISAT à pouvoir, relier les 600 centres de santé par VISAT et à disposer des éléments assez coordonnés sur les données. Et aussi, il y a le système national d'identité nationale qui se met en place, c'est important, mais pour le moment, la délivrance des cartes d'identité digitale n'est pas encore opérationnelle. Mmh. Et puis, vous avez les affaires étrangères qui ont un système biométrique très avancé pour les passeports, parce que on était obligé de faire des passeports biométriques, c'est de l'administration électronique, sinon nos passeports n'allaient pas être lus dans les guichets d'immigration du monde entier. Et enfin, la CENI. La CENI est l'une des administrations électroniques les plus avancées, dans le sens où la CENI utilise les empreintes digitales et utilise maintenant la rétine, l'iris de l'œil, pour pouvoir identifier les gens. Et les bureaux de vote ont des GPS. Et puis, quand vous regardez la remontée des informations et même l'affichage des résultats sur le site internet, c'est aujourd'hui l'une des administrations électroniques, la CENI, donc la plus avancée. Voilà.
Voilà, c'est cela l'état des lieux de la digitalisation de l'administration publique aujourd'hui en RDC. On va accueillir un premier auditeur, Charles Akissimba de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Dodi. Bonjour, monsieur Jody. Bonjour, monsieur l'invité.
Quelle est votre question?
Bonjour. Oui, monsieur Jody, comme monsieur l'invité, c'est vrai que la digitalisation est l'exigence du monde actuel, en coïncidence avec l'évolution technologique, parce qu'on a toujours dit que autre temps, autre mœurs. Mais ici chez nous, ce n'est pas un secret de police, même. En tout cas, nous ne sommes pas prêts à ce système-là. D'ailleurs, tout à l'heure, la société l'a reconnu. Avec notre électricité, il pose toujours problème, parce que ça constitue à être toujours un casquette. En tout cas, avec le délestage, c'est toute une fête, c'est toute une ambiance ici chez nous. Or, c'est là qui consomme notre courant, n'ont jamais connu le délestage. Mais ici, chez nous, on ne sait pas comment comprendre cela. Ça nous dépasse vraiment. Alors, comme ici, chez nous, il y a encore les préalables, il y a encore autant de choses qu'il faudra d'abord réunir. Moi, j'ai voulu assez dire que il a fallu d'abord prendre notre mal en patience, ou sinon, on risque d'aller vite en besogne au moment où ça va encore nous causer autant de problèmes. Il a fallu d'abord conserver, si c'est le cas de le dire, notre système là ancestral, parce que les sources d'archives, pour ne pas dire donc, comme je le disais, les sources d'archives restent toujours importantes ici chez nous. On ne sait pas si, en cas de panne, par exemple, des machines, est-ce que les données seront vite retrouvées. On ne sait pas. Alors, moi, je pense que on doit d'abord mettre cela sur la table, en attendant que toutes les conditions, tous les préalables soient réunis. Voilà un peu moi ce que je voulais partager avec les autres.
Bien, merci. Professeur Kodjo.
Bon, je suis tout à fait d'accord avec notre correspondant. Il y a des préalables. D'abord, les préalables, premier, c'est l'électricité. Le préalable second, c'est la connectivité. Ça veut dire, quand on regarde le taux de couverture des réseaux et même le déploiement de la fibre optique, le gouvernement avait pensé à avoir 50 000 km de fibre optique densifiée dans l'ensemble du pays. Mais maintenant, cet objectif, depuis 2012, avec le ministre Kinkié, n'est pas totalement réalisé. Vous avez également l'éducation de la population à la dématérialisation des services. Et puis, vous avez ce problème d'hébergement de données. Quelles sont les infrastructures que nous avons ? Le ministère du Numérique a insisté pour que toutes les données de l'État soient hébergées dans le cloud national souverain où il y a un centre de données. Bon, on dit data center pour faire beau, qui a été acheté par l'État, installé par l'État pour que tout le monde y rapatrie ses données. Donc, ces préalables sont importants. Et puis aussi, l'éducation des fonctionnaires de l'État. Vous savez, il y a une enquête qui avait été menée à l'époque qui montrait que plus de la moitié des personnels de l'administration publique avaient entre 55 et 60 ans. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir s'habituer aux nouvelles technologies, s'habituer aux nouvelles procédures, et ainsi de suite. Donc c'est autant de préalables. Mais parce qu'on parle stratégie, je vais donner une petite historique. Déjà en 1987, et je vous le dis, sous Mobutu, il crée le SPIZ, le service présidentiel d'informatique du Zaïre, dont a été issu M. Ekanda, qui a créé l'ISIPA. Mmh. Et donc, en 1987, Mobutu prend une ordonnance, c'était en juillet, disant que toute la bureautique nationale devrait pouvoir passer par la présidence de la République pour que progressivement, il y ait un schéma directeur de l'informatisation de tous les services de l'État. Malheureusement, cela n'a pas tellement pris. Vous vous souviendrez, hein, on était petits, on jouait avec des feuilles IBM qui s'assuraient des feuilles perforées qui s'assuraient de la paye des militaires et des fonctionnaires. Il y a eu également ces sommets avec M. Kiwakana qui calculaient la paye de l'ensemble du personnel des administrations publiques. Mais ce n'est qu'en 2014 que le Premier ministre Matata prend un décret sur l'informatisation, mais centralisée, des services publics de l'État. Il met en place un comité de pilotage, il met en place un comité technique, mais il n'y a jamais eu des moyens qui ont suivi. Donc, cette option centralisée d'une impulsion qui vient de haut pour l'administration électronique n'a pas marché. Et maintenant, on a un problème, on a un sérieux problème de disparité des initiatives d'administration électronique. Vous avez la présidence de la République, par exemple, le premier, la primature ou les ministères qui ont leur propre fournisseur d'accès à Internet, qui ont également leur propre fournisseur d'hébergement alors que pour répondre en fait à des besoins imminents de pouvoir être connecté, de pouvoir être joignable. Alors, le ministère du Numérique a fait un effort déjà de pouvoir uniformiser la charte graphique de toutes les administrations. Vous remarquerez en France, même au Congo-Brazzaville, même au Sénégal, que toutes les administrations ont une seule en tête. Mais nous, au Congo, c'était les opérateurs de saisie qui avaient leurs propres en tête. Et puis, autre chose qui est, que le ministère du Numérique avait essayé de faire, c'est de donner des adresses qui ne sont pas gmail.com, qui ne sont pas hotmail.com, aux autorités. Vous remarquez que sur tous les papiers en tête de nos ministères, c'est un ministre qui met son adresse gmail.com et lorsque il est remanié ou qu'il est parti, c'est un autre ministre qui met également
il l'adresse met aussi gmail.com. Son adresse, oui.
Oui, son adresse. Alors, tout ce fonds documentaire, toute cette mémoire institutionnelle de la République, c'est ça la base de l'administration, est en train de s'émietter et on se souviendra que Hillary Clinton a eu des problèmes et même une interpellation simplement parce qu'elle n'avait pas utilisé l'adresse
officielle
de sa fonction, voilà, officielle et en utilisant les adresses privées. Donc, monsieur qui nous a appelé a tout à fait raison, il y a plein de préalables. On a aujourd'hui un modèle qui n'est plus de digitalisation centralisé comme Mobutu le voulait, mais ou même le gouvernement Tata. Maintenant, on a un système totalement décentralisé. Alors, à moins qu'il y ait d'autres choses à dire, mais j'ai en face de moi le plan national du numérique au pilier numéro 3 sur les usages applicatifs dans l'axe 3.2 qui parle de l'e-administration, donc l'administration électronique. Ce plan national suggère qu'on améliore l'efficacité et la gestion et la synergie interne de l'administration publique par l'informatisation et la numérisation de son fonctionnement. Et puis, vous vous rendrez bien compte hein, qu'on peut payer aujourd'hui les factures de régie des eaux par M-Pesa. Mais qui le fait ? On peut aujourd'hui, payer des choses par carte bancaire, qui le fait ? Donc, c'est autant pour l'administration un réalignement de ses habitudes,
mais c'est aussi une question de l'éducation de la population.
Exactement, pour le grand public aussi, de savoir que ces dispositions existent. Et enfin, oui, l'éducation des administrations pour ce faire. Voilà.
Bien, on pense déjà si un jour, si sera possible pour un citoyen lambda congolais, il a besoin d'un document à la commune, au lieu de se déplacer, aller là-bas, on passe la commande en ligne et puis en moins d'une journée ou de deux jours, vous avez les documents.
Mais je suis d'accord avec vous. Prenez le cas du casier judiciaire. Tous les six mois, pour toute autre forme de preuve de bonne mœurs, que ce soit lorsque on veut accéder à l'avocature, je le dis comme ça, à la magistrature, on a besoin du casier judiciaire. Mais si le fichier des casiers judiciaires n'est pas informatisé et qu'on est encore dans stéganographie, non, on est encore dans la, on n'est pas encore dans la biométrie, ni qu'on est dans un casier judiciaire centralisé, on va se retrouver avec des cas des récidivistes qu'on ne sait pas reconnaître. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est les cas de mariage. Les actes de mariage, on est dans une société où les gens ont commis des bigamies. Ça veut dire que ces gens sont allés se marier à Massina.
Et puis à Lemba, voilà. Ils se sont mariés plusieurs fois.
Oui, oui, à Kasavubu. Et donc, les fichiers d'état civil des différentes communes n'étant pas reliés, n'étant pas dans un dialogue systémique, les gens peuvent obtenir des actes de mariage doublement en infraction avec la loi. Donc, il est très important que nous tenions compte du fait que la numérisation de l'administration apporte à celle-ci l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité. Et voilà. Vous avez également cette difficulté des horaires de travail. avec l'administration électronique, c'est 24 heures sur 24 que la plateforme peut recevoir vos demandes, quitte à ce que, avec cette déguichetisation, le lendemain, pendant les heures de travail, qu'il y ait un fonctionnaire qui travaille à vous répondre. Mais aujourd'hui, avec le problème de mobilité des embouteillages dans la ville de Kinshasa, le fait de ne pas recourir à l'administration électronique fait que vous arrivez péniblement à une administration et vous vous rendez compte que le fonctionnaire, lui, il arrive à midi et
comment il quitte à 15 heures.
Oui, et il quitte à 15 heures parce qu'il doit aussi courir pour le transport. Donc, c'est un problème de disponibilité du service public et on devrait pouvoir savoir que les lois de l'administration publique, qu'on appelle les lois de Roland, ça demande la continuité de service public, l'égalité d'accès, la mutabilité, et donc ces lois sont mieux assurées par une disponibilité de plateformes électroniques, mais derrière aussi, il y a des préalables, il y a des contraintes.
Bien, on va accueillir Justin Kalabia qui nous appelle de Bounia. Bonjour Justin.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour aussi à notre invité.
Nous parlons de la digitalisation de l'administration publique en RDC. Quelle est votre question?
Oui Monsieur Jody, vous m'attendez?
Oui, on vous écoute.
Oui Monsieur Jody, sauf que la connexion ici chez nous ça pose problème. Oui, qu'à cela ne tienne, vous savez la digitalisation ou la numérisation de nos institutions publiques Monsieur Jody, ça devient en tout cas un problème. Moi je me demande, est-ce que vraiment les autorités congolaises ont l'amour de la patrie ou l'esprit du nationalisme ou du patriotisme? Bon, donc moi, je ne sais pas, monsieur Jody, parce que ça, nous sommes déjà, en tout cas, au 21e siècle, mais nous travaillons toujours d'une manière, nos institutions publiques travaillent toujours d'une manière traditionnelle, monsieur Jody. Et c'est ce qui cause, nous, on pensait qu'avec une geste, en tout cas, ça allait résoudre tous les problèmes. Mais nous comprenons ça, c'est aussi peut-être, c'est ça, vous me excusez en tout cas pour mes termes, c'est peut-être un terme en tout cas, ou un moyen.
Bien, Justin, alors quelles sont vos propositions pour améliorer les choses, pour arriver à cet objectif de digitaliser l'administration publique?
Oui, monsieur, je dis, selon moi, en tout cas, il fallait d'abord qu'on ait une bonne volonté politique et l'amour de ces pays. Dédé, M. Jody, il faut que nos autorités aussi reviennent à la conscience. Vous savez que c'est le seul pays que nous avons au monde, la République démocratique du Congo.
Mais nous avons déjà tout terminé.
Au niveau, en tout cas, de la primature, ou arrive, en tout cas,
Justin, à ce pays. Justin Kalabia, nous avons déjà tout un ministère qui s'occupe du numérique. Donc, cela veut dire que quelque part, il y a une volonté de changer les choses.
Jusque-là, M. Jody. Vous savez qu'avec IGF, on pensait qu'on ne peut plus avoir de détournements. Mais est-ce qu'il n'y a pas il y a combien de détournements qui sont effectués après IGF? Et jusqu'à ce que ça va continuer. Mais quand cela ne tienne, moi je demanderai toujours à ce nouveau gouvernement qui vient. Il faut qu'on ait un service de suivi, M. Jody. Un service de suivi, afin que ces chemins de mafia-là ne soient plus, M. Jody. Voilà seulement ma préoccupation et bonne journée.
Monsieur. Merci. Bonne journée de la Merci Justin Kalabia. Nous parlons aujourd'hui de la digitalisation de l'administration publique. Le standard est ouvert, composé le 099-706-9941. Professeur Kodjo Ndoukouma, qu'est-ce que vous pouvez dire aux compatriotes, à notre compatriote Justin Debounia?
Je suis très heureux. J'ai eu à m'entretenir avec les dirigeants de l'École nationale d'administration de notre pays qui sont très conscients de la question et ils tendent aujourd'hui à pouvoir former les jeunes qui entrent dans l'administration, les ingénieurs civils comme on les appelle, les administrateurs civils à pouvoir maîtriser les aspects de l'administration électronique. Mais je vais lui dire que l'administration, à monsieur Justin, que l'administration, c'est de la transparence. C'est aussi cet état d'esprit. Veut-on de la transparence? Je vais vous dire que lorsque, à un moment donné, la Banque mondiale et le FMI ont imposé les ordres de paiement informatisés, ce n'est pas sous cette mandature, il y avait des gens qui faisaient des opérations de finances publiques en dehors de la chaîne de dépenses, parce que tout ce que vous faites sur la chaîne de dépenses, qui est informatisée, est retracé. Et s'il y a d'abord ce problème d'éthique dont on ne parle pas. La transparence, c'est aussi lorsque vous regardez tout ce qui est contrôle de gestion, le problème s'est posé avec le serveur de la CENI, disons-le. Pourquoi tout le monde a dit qu'il fallait contrôler le serveur de la CENI ? Parce qu'il y a toujours des données qui sont exploitables par tout le monde, dont la mémoire est assurée par ce serveur. Donc, le grand problème de la résistance au changement par rapport à l'administration électronique, c'est l'honnêteté également et l'éthique à avoir dans l'administration publique. Vous vous souviendrez également du programme EUFOR, du programme EUPOL aussi, qui sont venus pour faire des cartes biométriques à notre armée, à l'époque sous 1 plus 4, et ça s'est poursuivi encore dans la mandature 2006, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait des effectifs de l'armée, qui est une grande administration, et de la police, qui étaient surdéclarés, et il a fallu s'assurer du contrôle physique avec les appareils qui faisaient de l'administration électronique. Mais aussi, il y a un coût du changement. Ça veut dire que si vous devez budgétiser, comment on appelle, le passage de l'administration traditionnelle, comme M. Justin le dit, à l'administration électronique moderne, il faut voir le nombre d'ordinateurs qu'il faut acheter. Il faut voir également le nombre de connexions qu'il faut pouvoir payer. Il faut voir également le nombre de consommables qu'il faut avoir. Or, nous savons qu'aujourd'hui, notre petite administration publique, quand je dis petite administration, ce n'est pas pour minimiser, au niveau des communes, au niveau même des sous-siates de police, c'est souvent les justiciables, c'est souvent les administrés qui eux-mêmes achètent le papier duplicateur. Et on vous dit, il faut payer les frais de carbone. Alors, si maintenant l'État doit faire un programme d'administration électronique, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un coût important de changement. Et je ne sais pas si le budget de l'État est prêt à supporter cela. Voilà ce que je peux dire. S'il y a deux éléments, l'éthique administrative déjà, parce que la transparence est requise. Et donc, souvent, on a vu des gens même être mécontents du fait qu'on a acheté un ordinateur. Il y a des gens, et c'est en France aussi, hein, comment on dit, un travail sur Internet tue quatre emplois. Il y a des gens dans l'administration qui ont été mécontents qu'on ait pris un ordinateur qui soit capable de pouvoir centraliser les informations de quatre personnes humaines. Donc, on a eu comme ça dans des banques, des guichetières qui ont perdu leur fonction parce que il y a un distributeur automatique des billets. Donc, il y a trois phénomènes dont je peux parler si on veut aller dans l'administration électronique. C'est d'abord l'éthique des administrations par rapport à la transparence de leurs actes, et ils sont plus contrôlables. Deux, c'est le coût du changement. Et puis trois, la disparition effectivement des tâches d'un personnel qui est non qualifié parce que tout est remplacé par l'ordinateur. Mmh. Et donc, est-ce qu'on est prêt à avoir également ces conséquences sur l'emploi des personnes ? Vous allez dans notre administration publique, il y a des postes où il y a quelqu'un qui met simplement le cachet. Ça veut dire, on peut vous signer votre document par le ministre.
Son travail ne consiste qu'à mettre, à placer le cachet.
Effectivement, on vous signe un document par le ministre.
Oui.
Et puis même le ministre vous dit, hein, bon, voilà, allez voir avec le secrétariat. Il y a une personne qui met le numéro sur l'arrêté parce que c'est lui qui tient un vieux registre en papier cartonné.
Oui.
Et puis après, il y a quelqu'un qui doit vous mettre cela sur... vous mettre un cachet, et s'il n'est pas là, vous n'avez pas votre document, quoi. Mmh. Et donc, toutes ces personnes devront disparaître de la chaîne parce qu'avec l'administration électronique, il n'y a plus, il y a le phénomène de déguichetisation, et puis il y a le traitement qui se fait par un personnel qualifié, et puis la signature électronique fait qu'on vous délivre le document avec QR code sans qu'il y ait la personne qui est préposée au courrier pour mettre le tamponneur, comme on l'appelle, pour mettre le tampon.
Le tampon, et le reste. Oui.
Voilà.
J'imagine la bataille, ça ne va pas passer facilement.
Oui, mais je vais vous le dire en termes d'éthique. Lorsque un programme est venu pour mettre le vote électronique au sein de nos assemblées provinciales et de l'Assemblée nationale. Mais le politique a dit, mais ça serait transparent tout ça. Les gens sauront que moi j'ai voté oui ou que j'ai voté non, même si je suis de la majorité ou de l'opposition. Mmh. Vous vous rendez compte qu'à l'Assemblée nationale française ou même à la Chambre de représentants aux États-Unis, vous voyez l'hémicycle qui est représenté sur un tableau et vous avez, au moment où on vote sur le plan électronique, dans l'Assemblée élective, vous vous rendez compte qu'ici c'est rouge, ici c'est vert. Donc, cette transparence fait peur, même aux politiques. Ça, il faut le dire. Et on a dit, et dans ces assemblées, oui, c'était le programme, c'était Fonds européen de développement. J'y ai travaillé comme consultant.
Oui.
Et il y avait un volet d'appui à l'administration parlementaire où l'une des lignes de services proposées par la COFED était, donc la coordination du Fonds européen de développement, c'était de pouvoir électroniser les votes au sein de l'Assemblée. Mais ça a posé le problème, parce que les gens veulent encore leur vote à bulletin secret. Mmh. Donc c'est vraiment un vrai problème, non seulement d'éducation, mais c'est aussi non seulement d'électricité. On parle de digitalisation, mais c'est plus la transformation numérique. La transformation numérique ne touche pas que les infrastructures, ne touche pas que la superstructure mentale, ni que les structures humaines. C'est toute une mentalité. Il faut avoir une mentalité de l'administration publique.
Et surtout que oui, ça fait perdre à certains leur emploi, parce que quelqu'un qui est là, les tamponneurs, lui, il est là seulement pour placer les cachets. Et si ça devient un cachet numérique, tout ça sur l'ordinateur, on peut directement cacheter un document, c'est fini, il va perdre son travail et il va jamais accepter cela.
Oui, et puis ça lutte également contre la corruption. Je vous assure qu'il y a des petits dans le maillon de la chaîne décisionnelle de l'administration, il y a tellement des points de péage. Vous voulez avoir simplement le formulaire qui est dans un tiroir, on vous dit donnez l'argent
francs
pour qu'on aille photocopier.
Oui.
Dès que vous donnez l'argent, on vous le sort du tiroir. On dit bon, il n'y a pas d'encre pour pouvoir taper votre lettre de réponse. Dès que vous donnez l'argent, vous vous rendez compte que l'encre était bel et bien dans
en
le
ceci,
cela. Donc,
oui,
à un moment donné, le paperless, donc l'administration sans papier, va tuer à un certain moment des maillons qui sont des points de péage des administrations et le chef peut, de son bureau, approuver un certain nombre de décisions. Moi, j'ai travaillé aux Nations Unies. On avait un système qu'on appelait Atlas, où les grandes décisions sur des passations de marché supérieures à 100 000 dollars étaient prises à New York. Mais on avait toujours ces approbations qui étaient faites en ligne, comme si les personnes qui étaient à New York travaillaient avec nous dans le même bureau. Mmh. Et donc, avec l'administration électronique, on luttera encore contre le phénomène de corruption, parce que il y aura une visibilité directe de toutes les opérations par le chef, et le chef aura la possibilité de signer lui-même un document en ligne et de pouvoir donner les approbations nécessaires. Donc, c'est aussi ça le problème avec l'administration électronique, parce que la transparence va également lutter contre la corruption.
Bien, on va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut pour accélérer la digitalisation de l'administration publique en RDC ? Roger Marcel, bonjour.
Bonjour, monsieur Tati, et bonjour à votre invité.
Quelle est votre question ? On vous écoute.
Merci beaucoup. Je salue un peu notre invité, parce que j'ai écouté quand même par rapport à ce qu'il dit. C'est vrai, aujourd'hui, si vous regardez dans plusieurs pays, le pays qui cherche à se développer, quand même, il faut quand même pour tout ce pays digitaliser quand même leur administration par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, avec la volonté que le président de la République a montré lorsqu'on a créé le ministère du numérique. On a dit que c'était quand même une bonne initiative. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez dans tous les ministères, si vous avez besoin d'une information, il faut toujours aller jusqu'au niveau du ministère. Si vous entrez quand même sur Internet et faire même des recherches, pour avoir quand même des informations, c'est tout un grand problème. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a même des ministères qu'on crée, même aujourd'hui, si vous allez même sur leur page, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui est là. On peut quand même avoir, comme il y a quand même des demandes d'emploi, quelques informations qui passent quand même sur un ministère. C'est c'est la personne qui est censée d'aller voir quand même les informations sur les sites quand même du ministère. Mais chez nous, c'est un grand problème. Si vous, aujourd'hui, vous prenez quand même...
Roger, vous voulez dire que... sur les sites de la plupart des sites internet de ministère, on ne trouve pas assez d'informations.
Oui, on ne trouve pas d'informations. Si vous allez même aujourd'hui, vous cherchez quand même le ministère de l'Intérieur, même le ministère de l'Agriculture, même là, pour aller voir quand même les informations, qu'est-ce qui se passe là-bas. Vous allez voir rien, mais quand même, nous sommes quand même dans un pays quand même où le ministère de l'Amérique existe. Moi, je pense quand même que ça pouvait quand même aider. Regardez quand même les gens qui vivent même en Andajika, qui vivent à l'intérieur du pays, qui ont besoin quand même d'avoir quand même des informations. Avec l'Internet aujourd'hui, le monde évolue. La personne pouvait même être, même n'est pas même acquis, chacun même ailleurs, connaître comment le pays fonctionne. Mais dans notre pays aujourd'hui, si on a quand même des détournements, des choses qui se font, c'est par rapport à notre
système. Alors, quelle est la question, que vous adressez à l'invité Roger Marcel?
Je pourrais demander un peu à notre invité. Je ne pense pas s'il travaille un peu dans le domaine de numérique. À l'heure nouveau, ils ont eu quand même à avoir quelques initiatives que tous les ministères de la RDC pourront procéder, que ces ministères-là puissent quand même être à la page par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui.
Merci Roger. Professeur Kodjon Dukuma.
Mais oui, je suis content de ce que M. Roger dit. Vous savez qu'il existe une décision d'État ayant obligé que dans toutes les administrations publiques, il y ait une direction informatique. Donc c'est le cadre organique de l'administration publique qui a imposé que tout ministère, tout secrétariat général puisse avoir une direction de l'informatique. Mais maintenant, il faut se poser la question, que font-ils ? Ont-ils les moyens pour se faire ? Donc sur le plan organique et sur le plan papier, il y a une direction de l'informatique dans toutes les administrations, que ce soit l'administration de l'environnement, que ce soit l'administration des bois et forêts, pêche et élevage. Mais la question, c'est le côté fonctionnel. Est-ce que ces directions de l'informatique ont-elles tous les outils ? Est-ce que les bases de données, ça, il y a un problème dans le pays. Il n'y a pas de loi sur l'accès à l'information. Ça veut dire que quand vous allez demander, moi je suis chercheur aussi, demander de l'information dans une administration publique, on ne vous la donne pas. On ne vous la donne pas parce qu'on a peur que quand on vous la donne, qu'est-ce que vous allez en faire ? Et alors que dans d'autres pays, pour faire la mise à jour des sites internet, il y a ce qu'on appelle des informations publiques, il y a ce qu'on appelle des informations classifiées et il y a ce qu'on appelle des informations qui sont top secret et voire secret défense. Donc déjà, nous avons ce problème de la hiérarchisation de l'information publique par rapport à la mise à jour, par rapport à la mise en récit sur les différents sites internet. Nous avons également un problème d'hébergement de nos données. Ça veut dire que quand vous regardez, la plupart de nos données sont hébergées à l'étranger. On est quand même sur un média très suivi. Il y a des choses que j'ai dites dans une conférence au Pullman il y a quelques jours, mais que je ne peux pas dire ici. Lorsque vous regardez la plupart des données sur nos passeports, des données sur notre santé, des données sur le Covid, renseignez-vous. Où est-ce que c'était logé ? Est-ce que c'était logé ici dans le pays pour qu'on en assure une sécurité ? À part cela, nous avons également le problème de cybercriminalité. Lorsque vous observez, la plupart des lettres, la plupart des convocations de police, avant même, ou de convocations du parquet, avant même d'être, délivrées à leur destinataire, on les a déjà sur les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas pour le moment un cadre de cybersécurité nationale, oui, il y a des stratégies qui ont été adoptées, qui peut nous permettre qu'en entrant dans l'administration électronique qui est le cyberespace, que nous ayons la même sécurité physique et périmétrique. Et puis, qu'est-ce qu'il faut encore dire? C'est que vous avez des avancées, comme par exemple au Nord Kivu, toutes les taxes sont collectées par les dispositifs informatiques. Il y a un monsieur qui s'appelle Codinet qui a eu à le faire. À Kinshasa, ici, quand vous regardez, il y a également la société Hologramme qui travaille à pouvoir tout numériser de tout ce qui est recette de l'hôtel de ville. Mais vous avez, et ça, c'est pas à rire, le chef de la police de Kinshasa, l'ancien chef de la police de Kinshasa, révélait qu'on a utilisé les QR codes sur tous les taxis jaunes de la ville de Kinshasa pour lutter contre le phénomène d'enlèvement. Ça veut dire que si vous vous devez monter dans le taxi, vous scannez le code, vous envoyez à quelqu'un et on sait que vous êtes monté dans tel taxi. Si vous disparaissez, on peut vous retracer. Mais la révélation est quoi ? Que la personne qui gérait cette base de données est repartie avec en Afrique du Sud. Donc, s'il faut faire... Ben oui, c'est une information publique. Donc, et s'il faut donc, faire...
aujourd'hui, si vous pouvez faire... scanner les QR codes-là, donc ça vous mènera, ça donnera rien, quoi.
Oui, bon, et puis, oui, effectivement. Cela a été révélé dans le cadre des affaires de kidnapping avec le grand procès de Isaac Kabakaba et de Billy Boyce.
Oui.
Moi, je suis l'information, donc si lui l'a dit, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est préjudiciable à dire. Donc, il faut que nous réunissions un certain nombre de choses dans la stratégie qui est un ensemble d'actions coordonnées pour que nous arrivions à une administration électronique. Et il est important, de lutter contre la résistance au changement à cause de la transparence, à cause du fait qu'il y aura plus de contrôle, à cause du fait également que la corruption va disparaître. Il faut que nous ayons une vision claire de ce que nous voulons faire de la digitalisation. Il y a quelques pôles avancés, c'est les pôles de l'administration financière. Le ministère des Finances est l'un des services les plus digitalisés. Et puis, il y a également l'éducation de masse, pour lutter contre l'électronisme, et il y a également la cybersécurité assurée, parce que vous allez sur des domaines où vous êtes dans le cyberespace et vous ne contrôlez pas tout. Le coût du changement, c'est aussi important. Une administration qui fait sur papier est moins chère qu'une administration qu'on fait sur ordinateur et sur Internet, ça il faut le dire. Et puis bon, des tas de choses également en termes de réformes réglementaires, parce que l'information publique ici chez nous au Congo, et top secret.
Top secret, puis, c'est comme il y a Marcel qui nous a dit tout à l'heure qu'il est allé sur les sites internet de certains ministères, mais il n'y a pas de mise à jour. Donc il n'y a presque rien, vous ne trouvez pas des informations intéressantes.
Oui, justement, parce que quand on fait l'administration électronique, il faut également créer les services derrière. Il y a les services des communications des différentes administrations qui ne font que la communication événementielle et médiatique. Normalement, on doit avoir un help desk, ça veut dire un desk IT. Bon, je ne peux pas le dire autrement, un bureau qui s'occupe de l'appui à l'administration électronique au niveau interne. Quand vous regardez, il faut qu'il y ait des gens derrière qui mettent à jour les sites, qui donnent les informations, qui mettent les photos des audiences du ministre et tout le reste. Ça, c'est hyper important.
Est-ce qu'on va accueillir un auditeur, oui. Patty de Lumumbashi. Bonjour.
Bonjour, je suis plutôt passé à Bandounouville.
Vous êtes plutôt à Bandounouville. Quelle est votre question par rapport à la digitalisation de l'administration publique?
Bon, par rapport à cette thématique, c'est bien, mais bon... Moi, je suis un peu sceptique, hein. Arriver à digitaliser notre administration, bon, je ne trouve pas que nos autorités soient d'abord prêtes, hein. Parce que, comment expliquer? Les histoires d'abord manuelles ici, l'administration manuelle ici, nous voyons comment il y a de ça ne va pas. Hein? Il y a de ça ne va pas. Les frais d'administration ici, pour payer les quoi, les frais de fonctionnement, les autorités ne sont pas à mesure. Hein? Il n'en va rien du côté d'administration. Mais pour ceux qui travaillent, est-ce que avec la qualité de connexion et d'internet qu'on a dans ces pays-ci, les coûts que ce système-là va demander. Les ordinateurs, il faut des bonnes connexions. On nous avait monté toute une histoire ici, avec quoi c'était, je pense, en année 2017, les Wi-Fi ici, c'est les
avec la fibre optique.
La fibre optique, bien sûr. Cette histoire-là, on nous brandissait là ici, que non, il y aura une bonne connexion. Jusqu'aujourd'hui, pour nous communiquer, il faut chercher un arbre monté, sur un arbre pour avoir un bon réseau. Bon, maintenant, si d'abord on a vu les petites choses ici, c'est pratiquement impossible. Maintenant, à plus forte raison, digitaliser l'administration congolaise. Ah, ça, c'est un chapelet de bonnes intentions. Qui commence d'abord avec des petites choses, qui commence d'abord à payer
mais
les frais de fonctionnement.
Mais ce parti, mais ce n'est pas impossible d'arriver un jour à digitaliser.
Non, ce n'est pas impossible. Oui. C'est possible, bien sûr, mais avec quel type de classe politique qu'on a. Hein, monsieur Jody, la classe politique qu'on a ici, ce sont des gens qui nous racontent des histoires. Hein, ils sont là seulement pour nous endormir avec des projets, des gros projets, mais quand même ne sont pas mesés. Quand ils ne sont pas mesés d'abord de payer les frais de fonctionnement, les petits papiers ici pour envoyer. Bon, si on parle loin, les athées de notre pays ici, on fait combien d'années? Est-ce qu'ils sont d'abord payés? Les athées, ils sont payés. Hein, ils
oui.
sont payés. Maintenant, ils ont envoyé les ordinateurs. Envoyer les carburants pour les groupes électrogènes, est-ce qu'ils vont avoir électrifié ce pays-ci? Nous, avant, nous, on a du courant ici, mais les villages qui sont en face de nous ici, ils n'ont pas du courant. Ils n'ont pas du courant.
D'accord, bon. Merci.
À ce niveau ici,
oui.
Je me laisse d'abord, qu'il commence d'abord avec des choses préliminaires. En même temps, des choses comme ça, bon. Nous, on va, ils sont en train de nous estomaquer pour rien. Qu'ils nous laissent d'abord.
Patti, il y a même déjà tout un ministère qui s'occupe de la digitalisation. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une certaine volonté politique.
Il y a de cela ici, deux ans ici. On nous a bouffé l'argent de l'âme ici. Hein? Apparemment, c'est que cet argent-là allait entrer dans ce compte-là. Cet argent-là, on entendait ici que nous étions partis du côté financier, la gâteau de l'enseignement. Est-ce qu'il y a de la clarité par rapport à cette situation?
Bien, merci hein? Patti. Merci d'avoir appelé depuis le Bandounouville. Professeur Kodjo, à vous la parole.
Oui, je vais lui dire à M. Patti que la bancarisation déjà est un haut fait de l'administration publique. Moi, j'ai eu à suivre le ministre de la fonction publique, Liaou. C'était en novembre, je crois, 2022. Il parlait de l'assainissement du fichier de l'administration centrale de la fonction publique avant de s'attaquer au fichier de l'administration des administrations décentralisées. Et donc, il avait pu enlever comme ça plus d'un million de doublons. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des bénéficiaires des fonds d'allocation enfants qui avaient déjà 72 ans. Donc, il a assaini le fichier de paye de la fonction publique, parce que ça commence de là. Et la bancarisation, c'est aussi le dialogue entre une administration électronique des finances avec les banques. Et nous le vivons déjà. Donc, ça signifie que cette administration électronique peut se faire par couche, peut se faire par niveau. Déjà, on devrait s'assurer que notre administration centrale soit quand même la plus informatisée possible, de sorte que, de toutes les façons, les personnes puissent avoir accès à ce niveau-là, ce premier niveau, ce premier palier de l'administration numérisée. Après, maintenant, au niveau des provinces, ça dépend effectivement de l'état des infrastructures et ça dépend de l'état de la connectivité. Ça dépend également de l'état du lettrisme des gens. Alors, je lui dirais également que quand vous regardez tout le circuit de la douane aujourd'hui, ce circuit de la douane est également informatisé. Alors, il y a beaucoup trop de choses à faire. Hein. La Chine a pris du retard parce qu'elle n'avait pas fait la révolution de la mécanisation. Nous sommes aujourd'hui dans la révolution numérique qui est la troisième révolution industrielle. Donc, on ne doit pas rester en marge de cela. Et puis, vous avez la question de la production de l'information publique. Il y a un programme assez astucieux chancellerie occidentale. À l'époque, c'est le ministre Bongongo qui est ministre de la fonction publique. Ils viennent lui proposer de faire du open data. Ça veut dire qu'il propose pour à peine 1 million ou 2 millions de dollars qu'il puisse numériser l'ensemble des archives de la fonction publique depuis, je ne sais pas moi, l'époque de Léopold II. Et que, en numérisant cela, ils vont permettre à nos administrations d'être plus lisibles sur le plan de l'administration électronique. Moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, mais bon sang, toutes ces données qui sont dans nos archives, c'est une valeur. Et lorsque nous faisons de open data, on prend ces données qui ont mis des années à être produites, il y a un coût de production de données,
oui.
Et qu'on les numérise et on le met en libre circulation, c'est notre pays qui perd au profit de ces personnes. Parce qu'une fois que vous avez numérisé une donnée, c'est fini, on peut la copier à l'infini.
Oui.
Or, leurs propres administrations font payer un certain nombre de données. Quand vous allez vérifier les cartes minières à Terre Vuren, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Donc, quand vous voulez venir exploiter les mines ici au Congo, vous devez aller auprès de l'administration belge qui a toutes les cartographies géologiques du pays, mais ils font payer pour les droits de consultation. Donc, l'État doit aussi comprendre qu'il y a un coût d'opportunité, une valeur de nos données, que si nous les numérisons, ça peut rapporter de l'argent au pays. Ça peut rapporter de l'argent au pays plutôt que de les laisser moisir dans les tiroirs.
Bien,
le
professeur.
Faire à vil prix.
D'accord. Professeur, pour terminer cette émission, qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer la digitalisation dans l'administration publique ? Pour mettre beaucoup plus de moyens ou qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ?
Bon, il faut travailler sur les leviers dont nous avons parlé. Un, assurer l'électrification. Ça ne veut pas simplement dire qu'il y ait l'électricité partout. On peut avoir des solutions aussi décentralisées avec des groupes électrogènes si on ne vole pas du carburant ou avec des cellules photovoltaïques si les batteries qui servent ne sont pas volées non plus. Il faut avoir une connectivité. Ça veut dire que nous sommes très tributaires des sociétés de télécommunications parce que notre fibre optique SCPT n'est pas aussi densifiée dans le pays. Il faut une éducation de la population au lettrisme électronique contrairement à l'électronisme. Et puis la valorisation de nos données parce que nous avons des données importantes au sein de nos tiroirs, de nos papiers qu'il faut pouvoir numériser mais les valoriser et puis les garder ici au pays et ne pas les disséminer dans les serveurs étrangers, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis, il y a également la mentalité qui doit pouvoir changer. Tout ce qui est administration électronique est contre la corruption, est contre l'opacité, est contre la non-contrôlabilité. Et il faut qu'en allant dans la digitalisation de l'administration, que les gens le sachent.
Bien, professeur Kodjo Ndoukouma, expert en droit numérique
et institutionnel,
oui.
Qui est important.
Bien, merci beaucoup professeur
voilà,
Kodjo.
Je vous en prie.
Excellente journée et à la prochaine.
Merci.
Bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Jean-Claude Ziala était à la mise en onde, Tati Mapoukou a assuré la coordination et la réalisation. Jeudi, Daniel Kachama. Au micro, tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.